Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour passer avec vous ces 30 prochaines minutes, l'occasion pour nous, au travers de ce que nous allons partager avec vous, de vous transmettre un certain nombre de pistes de réflexion, d'idées, de chemins sur lesquels nous pourrions vous inviter à cheminer pour découvrir ce qui peut faire toute la différence dans votre existence au cours de ces instants. Nous aurons l'occasion, entre autres, d'écouter Didier Rocca, Frédéric Travier, mais aussi Ethan, Aslan, Raphaël, et tout de suite, Lionel Salaveria, tu me guides. Dieu n'est pas forcément le cliché que l'on peut en avoir gardé d'une école du dimanche ou d'une formation en catéchisme ou d'une instruction religieuse qui en aurait fait une caricature, mais aller à la rencontre de celui qui veut nous aider à cheminer jour après jour. Didier Roca nous en parle à sa façon avec une de ses chroniques inspirées de notre actualité dans 150 ans.
Dans 150 ans, on ne s'en souviendra pas de ta première ride, de nos mauvais choix, de la vie qui nous baise, de tous ces marchands d'armes, des types qui votent les lois là-bas, au gouvernement, de ce monde qui pousse, de ce monde qui crie. Dans 150 ans, on ne s'en souviendra pas de la vieillesse qui prend, de leurs signes de croix, de l'enfant qui se meurt, des vallées du tiers-monde. Ce sont là quelques extraits d'une chanson de Raphaël, poète et chanteur tout à la fois. Chanson mélancolique, mais ô combien véridique. Que restera-t-il en effet de notre actualité dans 150 ans ? Vous et moi, nous ne serons de toute façon plus là pour voir et entendre ce que diront de nous les historiens et éditorialistes du temps futur. Dans 150 ans, on n'y pensera même plus à ce qu'on a aimé, à ce qu'on a perdu. Finir tous dans la terre, mon Dieu, quelle déconvenue. Regarde ces squelettes qui nous regardent de travers et ne fais pas la tête, ne leur fais pas la guerre. Il ne leur restera rien de nous, pas plus que d'eux. J'en mettrai bien ma main au feu. Pour Raphaël, comme pour une grande majorité d'entre nous, une conclusion s'impose. Alors, souris. C'est-à-dire, vis, aujourd'hui. Profite de la vie maintenant, parce que dans 150 ans, de toute façon, tu ne seras plus là. Il y a une froide lucidité dans les paroles de ce poème, mais on peut aussi y entendre la résignation et le fatalisme, parce que d'une part, nous ne pouvons rien changer à l'échéance de notre mort, finir tous dans la terre, mon Dieu, quelle déconvenue, et d'autre part, parce que nous sommes impuissants à changer le cours de l'histoire d'un présent qui semble bien gris et qui pèse lourd sur le cœur du poète qui voit les marchands d'armes, les gouvernements, le monde qui crie, l'enfant qui meurt, les vallées du tiers-monde, la course solennelle qui condamne sans ciller. « Souris, vidons nos bières », chante Raphaël. Faut-il se taire devant l'absurdité d'un monde qui déploie tant de puissance pour augmenter ses profits et qui fait si peu et si mal pour que recule la misère et la violence? Face à la réalité de notre temps, nous sommes devenus fatalistes, sinon indifférents. Oui, il faut profiter de la vie. Tout faire pour être heureux est une bien noble tâche, et je ne serai jamais le dernier à m'appliquer à cultiver ce qui, dans ma vie, fait mon bonheur. Mais il n'y a de bonheur possible qu'à le vivre en société. Nous ne vivons pas sur une île déserte, ou dans le silence d'un désert, mais bien au milieu des hommes. Je peux fermer les yeux sur ces images de violence qui ne cessent de les brûler. Je peux boucher mes oreilles pour ne plus entendre les cris de la colère ou les râles de la souffrance. Mais la réalité du temps présent n'en sera pas changée pour autant. J'aimerais que dans 150 ans, on puisse dire que notre génération a su réagir et que le monde en a été changé. Mais autour de moi, je ne vois que résignation, fatalisme et un égoïsme forcené qui nous pousse à protéger une illusoire richesse et une utopique sérénité. Alors, souris. Dieu, lui, ne s'est pas résigné à notre sort. Très souvent, on le pointe du doigt en l'accusant d'être le responsable de la souffrance des hommes ou de ne pas intervenir pour la faire cesser. Mais que dirions-nous d'un Dieu qui nous priverait de la liberté de l'aimer ou de le haïr? Un poète grec a un jour écrit ceci : Dieu peut tout, sauf nous forcer à l'aimer. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains, dit un psaume qui poursuit ainsi : De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Dieu n'est pas indifférent à notre vie. Il ne s'est jamais résigné au saccage de sa création. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de tous les maux de notre temps. Comment d'ailleurs peut-on accuser une personne dont on rejette la présence et jusqu'à l'existence? N'est-ce pas une façon que les hommes utilisent pour décliner leur propre responsabilité? À l'opposé du spectacle quotidien de la comédie humaine, le psaume nous dit que Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'amour de Dieu remplit la terre. Mais nous ne savons pas, ou nous ne voulons pas le voir et le reconnaître, parce qu'il faudrait alors reconnaître nos propres égarements et tout faire pour changer. Face à la réalité de notre vie et de nos révoltes, encore une fois, Dieu aurait pu hausser les épaules et nous tourner le dos. C'est pourtant encore lui qui va faire le premier pas en venant à notre rencontre en la personne de Jésus-Christ. Mais de lui aussi, les hommes n'ont pas voulu, puisqu'ils l'ont supprimé. Pourtant, comme l'annonçait le prophète Ésaïe, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de nos mauvais choix, de la vie qui nous baise, chante Raphaël. Je ne connais pas vos choix personnels. Quant à moi, j'ai définitivement choisi de dire oui à l'amour de Dieu qui s'est totalement révélé en Jésus-Christ, et ça c'est une réalité qui durera bien plus que 150 ans, puisque c'est pour l'éternité que cet amour m'a été donné.
Seigneur Jésus, je n'ai pas peur des frayeurs de la nuit. Je sais que tu veilles sur ma vie. Je m'accroche à toi, je garde mes yeux sur toi. Éternel mon refuge, j'invoque ton nom, je proclame ton nom. Mon salut c'est Jésus. Peur des frayeurs de la nuit, je sais que tu veilles sur ma vie. Je m'accroche à toi, je garde mes yeux sur toi. Éternel mon refuge, j'invoque ton nom, je proclame ton nom. Mon salut c'est Jésus. Oh, 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 tu es Seigneur.
Mon
prière. Fortement inspiré de ce recueil que l'on trouve au plein milieu de cette grande bibliothèque qu'est la Bible, le livre des psaumes, je demeure à l'abri du Très-Haut. Une prière qui veut aussi dire la confiance que l'on peut placer en Dieu. Une confiance qui ne sera jamais déçue, car elle est toujours placée en celui qui veut faire de notre existence le meilleur. Aslan.
Je me suis retrouvé face tournée contre terre. Toute la nuit j'ai résisté au froid. Le brouillard dans ce dense et m'en serre. Et moi je ne peux pas bouger de là. L'estre du jour se pointe à l'horizon. Comme l'espoir, le sauveur, le héros. La douceur de ses premiers rayons vient peu à peu réchauffer ma peau.
Savoir comment orienter notre vie comme un tournesol. Et pour cela, comme nous le dit maintenant Frédéric Travier, il est peut-être nécessaire de savoir ouvrir une porte, d'oser ouvrir une porte, c'est-à-dire franchir un seuil qui va transformer notre existence. Frédéric Travier.
J'imagine cette petite histoire. Vous devez prendre l'avion pour un déplacement important et éloigné. L'hôtesse vous accompagne à votre siège et vous commencez à vous détendre avant le décollage. À côté de vous, le siège reste libre. L'hôtesse vous informe que le passager qui devait être là a eu un empêchement de dernière minute. Quelques heures après le décollage, arrive un homme en uniforme blanc, cravate bien serrée, casquette sur la tête. Il s'assoit à côté de vous en vous souriant. Vous savez, comme pour vous rassurer. Mais vous n'êtes pas vraiment rassuré. Intrigué, au bout de petits moments, vous entamez la conversation. Vous êtes dans la marine ? Pas du tout, je suis pilote de ligne. En fait, pour tout vous dire, mais ne l'ébruitez pas, je suis le commandant de bord de cet appareil. Ah, très bien, je comprends, vous vous dégourdissez un peu les jambes, normal. Pas du tout, poursuit le pilote. Mon copilote n'a pas accepté une de mes décisions et il a profité de ma sortie du cockpit pour s'y enfermer avec une hôtesse et le mécanicien. Et comme je n'ai pas envie d'affoler tout le monde, je suis venu m'asseoir ici en attendant de voir comment tournent les choses. Surtout faites comme si de rien n'était, dans un moment j'essaierai de voir s'il veut bien m'ouvrir la porte. S'il veut bien m'ouvrir la porte. Cette phrase vous hante, et vous ne pouvez pas vous empêcher de la dire, de la redire encore au-dedans de vous. Ainsi le pilote peut être tout prêt sans pour autant avoir les commandes. Oui, Jésus peut être à bord de ma vie, mais est-il vraiment à la bonne place? A-t-il les commandes en main? Voici, dit la parole de Dieu, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous sommes en présence d'un dernier élan d'amour que le Seigneur fait jaillir de son cœur. Et par cette douloureuse affirmation, il ne laisse aucune ambiguïté possible quant à la triste et dramatique réalité de la situation de l'église de Laodicée à laquelle il adresse ses paroles. Jésus est bel et bien en dehors du cockpit, en dehors de la réunion de l'assemblée. En général, ce verset est utilisé pour argumenter l'évangélisation et faire comprendre que Dieu aime tous les hommes et veut les sauver. C'est juste, dans l'esprit de l'Écriture. Mais ce n'est pas le sens premier de ce passage à cause de son contexte. Et ce serait une façon de faire l'autruche que de ne pas lire ce passage dans ce contexte. Jésus s'adresse à une église, Laodicée, et non au monde. Et je crois que cela doit changer notre regard de ce texte et en même temps doit nous faire prendre conscience de l'importance des mots et de la gravité de la situation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il se tient encore à la porte, car il sait qu'il y a un espoir. Un certain docteur Church parlait souvent de volcans en Afrique. Lors d'une éruption, les gens venaient regarder la lave coulant le long de la montagne. Cette mer incandescente descend lentement les pentes. Tout à coup, on aperçoit qu'elle se refroidit et qu'une sorte de peau se forme à la surface, de plus en plus épaisse. Mais cela ne dure pas. Ici ou là, le feu perce ce que l'on appelle la peau d'éléphant. On croyait qu'il n'y avait plus rien, mais la lave en feu apparaît à nouveau. Telle est souvent la vie de l'Église, ma propre vie spirituelle. Au fil des années, la vie se refroidit et se durcit. Mais telle la percée de la lave à travers cette peau, la grâce de Dieu se manifeste à nouveau. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. C'est pourquoi la patience de Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette parole de Jésus est donnée en conclusion du message de l'église de Laodicée. Il est donc intéressant de nous arrêter quelques instants sur les paroles qui ont précédé et répondre ainsi à la question « Qu'est-ce qui a poussé le Seigneur Jésus à parler ainsi à l'église de Laodicée ?» Eh bien, il leur écrit et leur dit en introduction « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » La vie de Laodicée était très riche et très prospère. Les historiens affirment qu'il y avait un grand centre commercial réputé pour son industrie textile, ses tapis et ses vêtements confectionnés en laine de Phrygie. Il existait aussi une école de médecine dont le renom s'était répandu au loin. À Laodicée, on soignait surtout les malades des yeux. Les oculistes appliquaient un collyre fameux que l'on fabriquait à l'aide d'une poudre nommée baume de Phrygie. Nombreux aussi étaient les malades qui cherchaient un soulagement par les eaux thermales de cette ville. Enfin, caractéristique non négligeable, Laodicée était une ville extraordinairement riche, célèbre par ses opérations bancaires, peut-être le Wall Street de l'époque. Et pour bien saisir l'importance de leur richesse, on rapporte que lorsqu'un tremblement de terre détruisit partiellement la cité en l'an 60 de notre ère, une trentaine d'années avant la rédaction de la lettre, les citoyens de Laodicée refusèrent l'aide du gouvernement romain pour la reconstruire. Ils avaient, dans leur coffre, les disponibilités nécessaires pour le faire et ils préférèrent ne dépendre de personne. Voilà donc placé ce contexte ambiant dans lequel se trouvait l'église de Laodicée, contexte qui ressemble à s'y méprendre à celui des pays dits industrialisés, toute proportion gardée. En effet, nous pouvons retrouver ces trois dominantes. L'importance du commerce, de plus en plus d'ailleurs avec l'aide d'Internet. L'efficacité de la médecine, dans d'innombrables domaines, fruit de la recherche et des progrès technologiques. Et enfin, la puissance de l'argent, poumon de ces dites sociétés. Malgré tous les progrès de notre société d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que les hommes ne sont toujours pas heureux. Mais est-ce si surprenant ? Le chanteur chrétien Philippe de Courroux dit quelque chose de très vrai dans un refrain d'une de ses chansons. « On n'a jamais autant parlé d'amour qu'aujourd'hui. On n'a jamais autant cherché un sens à nos vies. On n'a jamais autant couru après le bonheur. On n'a jamais autant perdu aussi la paix dans nos cœurs. » Il paraît qu'on peut admirer dans la cathédrale Saint-Paul à Londres le tableau de Holman Hutt illustrant ce verset. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte et j'entrerai avec lui. » Le peintre présente Jésus couronné d'épines et frappant à la porte. L'artiste avait achevé son œuvre lorsque quelqu'un lui fit remarquer « Monsieur Hunt, vous avez oublié la poignée de la porte. » « Non, répondit le peintre, ce n'est pas au Seigneur, mais au pécheur d'ouvrir la porte. Ainsi la poignée ne se trouve-t-elle qu'à l'intérieur. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit lui dit maintenant et qui ne tarde pas à agir en conséquence.
Je regarde derrière moi, tout me paraît si loin. Retourne et j'aperçois l'ombre de tes mains. Chaque jour qui passera me rapproche toujours un peu plus près de toi. Yeah. Je suis plus si sûr des choses, surtout celles qu'on nous impose. Le silence devient ce dont je dispose, à croire qu'il fallait faire une pause. Et chaque instant qui passe nous rendra plus fort, même c'est dur de savoir reconnaître ses torts. Jamais je ne pourrai l'oublier, partir au loin, s'accrocher, regarder en haut, espérer, imaginer, rien qu'un instant, que tout peut changer.
On va se quitter avec Ethan, partir au loin. Une invitation à un voyage nouveau avec un guide, celui que tour à tour Frédéric Travier, Didier Roca, mais aussi Aslan, Raphaël ou Lionel Salaveria, tout comme Ethan, et tout comme moi-même, ont souhaité vous présenter au long de ces instants. Un Dieu qui n'a rien à voir avec un Dieu plein de poussière, un Dieu des institutions, mais un Dieu manifesté par l'amour en son Fils. N'hésitez pas à poursuivre la réflexion avec nous.
Partir au loin, s'accrocher, regarder en haut, espérer, imaginer, rien qu'un instant, que tout peut changer. Changez-vous.
regarde devant moi, tout me semble si près. Je me retourne et je te vois, comme si tu étais là.